Nicolas Gouraud, This Means More, 2019.
Donc je m'appelle Nicolas Gouraud et la vidéo que je présente dans l'expo 100% s'intitule This Means More. C'est un film que j'ai fait au Frénois, Studio National d'Art Contemporain, en 2019. L'idée que j'avais, c'était un peu de donner une histoire ou une mémoire à une foule virtuelle qui est une sorte d'état comme ça contemporain et en apesanteur, on va dire, de l'image de la foule, quoi. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'était un peu de donner de l'épaisseur à une image assez plate qu'on voit comme ça de manière floue dans un arrière-plan de publicité deux secondes à cause d'un montage très, très haché, quoi. Le point de départ du film, c'est de raconter un peu l'histoire d'une l'architecture d'un stade, en l'occurrence celui de Liverpool, de l'équipe de Liverpool, et plus particulièrement de raconter l'histoire de la tribune populaire, qui est une des tribunes du stade qui se trouve derrière le but, qui s'appelle le COP, et donc qui avait la particularité d'être le lieu où se retrouvaient les supporters les plus pauvres, on va dire, d'un milieu populaire qui pouvaient en fait entrer dans cette tribune parce que c'était une tribune qui était sans siège, où les supporters se tenaient debout, donc pouvaient rentrer en très grand nombre, et où le prix des places était relativement bas. Donc l'histoire du COP, ça a été toujours des supporters du coin, du quartier de Anfield, qui pouvaient assister au match comme ça, à très bas prix en fait. Et du coup, qui développaient vraiment une culture très forte autour du club, avec des chants, avec des mouvements de foule particuliers, etc. Et donc le film raconte l'histoire de ce stade et surtout de cette tribune-là, du point de vue de l'architecture, en donnant à voir une sorte d'évolution historique qui est marquée par une catastrophe qui s'est déroulée en 1989 dans un autre stade à Sheffield, qui est le stade de Hillsborough, dans lequel il y a eu un mouvement de foule en fait, parmi les supporters de Liverpool qui étaient en déplacement, et 95 personnes sont mortes le jour de ce mouvement de foule. Et donc cet événement-là a été un grand traumatisme en fait en Angleterre et dans le monde du foot en général, et a amené en fait une évolution de l'architecture des stades vers plus de sécurité en fait, et vers des stades avec des places assises telles qu'on les connaît aujourd'hui en fait. Donc cet événement, c'est un peu le catalyseur qui a fait basculer le foot dans son état un peu plus populaire et ancien dans les années 70-80 vers le modèle contemporain du football qu'on connaît un peu aujourd'hui. Voilà. Et donc le film This Means More en fait retrace l'évolution de l'architecture du stade de Liverpool comme une sorte de métaphore en fait, de microcosme de changement de la société beaucoup plus large qui se sont passés aussi à cette époque-là. Il y a un peu deux points de départ. Le premier qui est assez simple, qui est que j'ai moi-même un ami, un très bon ami qui est un grand fan de foot, un supporter du PSG. Avec lui en fait, on a assisté à beaucoup de matchs de Paris dans un PMU en fait, et on a pas mal discuté en fait autour de l'histoire du club, du PSG, mais aussi l'histoire des supporters, parce que c'est une histoire où il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de mythes, il y a des histoires un peu importantes, et l'histoire des supporters de Liverpool, c'est une histoire importante dans la culture des supporters. Donc ça, c'était le premier point, c'est qu'en fait, en échangeant avec des gens au PMU, j'ai découvert cette histoire, et notamment l'histoire de Liverpool. Et la deuxième élément, on va dire, déclencheur, c'est qu'en parallèle, donc du coup j'avais ma pratique artistique, je m'intéressais beaucoup en fait au travail d'une agence de recherche qui est basée à Londres, qui s'appelle Forensic Architecture, et dont le principe est d'utiliser des outils de modélisation architecturale pour enquêter sur des crimes de guerre, sur des crimes humanitaires. Et donc, ils allient beaucoup l'analyse de l'architecture avec des phénomènes de violence d'État ou de violence systémique. Et donc, j'ai collaboré avec l'agence et ça a beaucoup aussi influencé ma manière de percevoir ma pratique. Et il se trouve que c'était en même temps, en fait, que je discutais de l'histoire des supporters et que je travaillais pour Forensic Architecture. Donc, à un moment, j'ai voulu un peu croiser ces deux centres d'intérêt et l'intrication qu'il y avait entre l'architecture des stades et les images que ça produisait, et les images d'une foule que ça produisait. Et donc, en même temps, j'ai découvert l'image d'archive qui sert un peu d'élément central au film, qui est une archive de la BBC fin des années 60, je crois, début 70, où on voit justement des supporters de Liverpool qui chantent un morceau des Beatles. Et en parallèle, en fait, je voyais défiler énormément de publicités aujourd'hui où on voit des supporters, mais on les voit de manière assez, floue dans le fond de l'image, etc. Et donc, je me suis demandé un peu, quand j'ai comparé les deux images, j'ai vu qu'il y avait une sorte de presque un état de la matière différent, un état de la foule différent. Et donc, c'était ce passage entre deux états de foule qui m'intéressait. Et je me suis dit que je voulais en apprendre plus déjà dans un premier temps sur la manière de faire des foules en images de synthèse. Comment est-ce qu'on fait des foules aujourd'hui? Le fait d'utiliser le témoignage d'un graphiste en fait, qui m'explique comment utiliser un logiciel de simulation de foule, c'était quelque chose d'important que j'ai beaucoup discuté au cours du montage, qui a pu disparaître par moments, mais qui est toujours revenu en fait, parce que pour moi c'est un enjeu fort du film, et du coup le mettre au départ, c'est aussi signaler que l'enjeu c'est comment est-ce qu'on fabrique des images et quelle politique il y a associé à ces images-là, en fait. Donc, c'est une partie un peu didactique que j'ai essayé de ne pas rendre trop lourde et pas trop didactique, justement, en la gardant assez courte. Mais c'est un élément important, justement, pour que le spectateur puisse entrer dans le film. Dans le contexte actuel, c'est encore plus important, justement, disons que l'industrie de la foule de synthèse va devenir encore plus importante. Et donc, je voulais juste déjà comprendre comment ça se passe, donc d'un point de vue de fabrication de l'image. Donc j'ai interrogé des graphistes qui utilisent des logiciels de foule virtuelle principalement pour des publicités. Et dans un deuxième temps, je me suis formé à ce logiciel-là pour justement non seulement comprendre comment ça fonctionne, mais pouvoir le réutiliser et le détourner un peu. L'idée que j'avais, c'était un peu de donner une histoire ou une mémoire à une foule virtuelle qui est une sorte d'état contemporain et en apesanteur, on va dire, de l'image de la foule, quoi. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'était un peu de donner de l'épaisseur à une image assez plate qu'on voit comme ça de manière floue dans un arrière-plan de publicité deux secondes à cause d'un montage très très haché, quoi. L'angle d'attaque que je trouvais intéressant, c'était que justement en parlant de l'architecture de la tribune et du coup de l'arrivée des sièges dans la tribune par le mouvement de la foule, donc par un angle d'attaque super très formel, visuel, on avait symboliquement en fait accès à d'autres à d'autres choses, et en l'occurrence à deux époques différentes, à deux types de comportements, même deux rapports à la foule, en fait, parce que aujourd'hui avec on le voit avec la situation actuelle, c'est que on va plus se comporter de la même manière, je pense, après la Covid, vis-à-vis des rassemblements. Il y aura sûrement, même inconsciemment, pendant quelques temps, des réticences, une perception différente. Et en fait, vis-à-vis de la sécurité dans les stades et vis-à-vis de la sécurité dans la foule, je pense qu'il y a un peu la même sensation. Et du coup, à travers juste des mouvements de foule, en fait, donc des mouvements de foule qui sont représentées visuellement, on peut imaginer des époques en fait. Et donc ça, c'était un angle qui m'a paru intéressant parce que à travers une image, enfin en l'occurrence à travers deux images qui sont confrontées au début de la vidéo, on peut confronter deux époques en fait. Dans le film, il y a une hypothèse qui est que justement le stade ultime en gros des stades de foot et des supporters dans les stades de foot, ça va être en gros leur version numérique qui va remplacer en fait la présence des supporters, qui à l'époque était une hypothèse et qui en fait avec justement la Covid s'est révélé être mis en place, puisque maintenant les matchs qu'on peut voir à la télé en fait sont dans des stades vides mais avec un son d'ambiance qui provient d'enregistrements pour des jeux vidéo, notamment pour FIFA et des choses comme ça. Donc cette hypothèse là en fait c'était un peu le pari du film, et donc de passer de l'architecture des stades, donc des sièges, à la matrice un peu du logiciel 3D qui fonctionne en fait de manière un peu similaire en gros, où justement dans le logiciel 3D les sièges servent de point de départ à toute la vie de la foule en fait. Et donc ça c'était un pari du film de faire la passerelle entre architecture des stades et foule virtuelle.
Well, those two central pens probably only held 650 in each, safely. Well, that day, there was possibly 3,000 or more.
Donc les supporters qui ont accepté de témoigner dans la vidéo, je les ai rencontrés par l'intermédiaire d'un journaliste anglais de la BBC qui s'appelle Peter Marshall, et qui justement en fait a fait un documentaire sur Hillsborough tout bêtement. Et donc j'ai vu ce documentaire, je l'ai contacté au départ pour avoir des informations dans ma phase de recherche, et rapidement en fait il a proposé de me faire rencontrer quelques supporters qui justement étaient potentiellement intéressés de partager leur histoire en fait. Et donc c'est comme ça que je suis entré en contact avec eux, et en fin de compte je suis allé très peu longtemps à Liverpool. J'y suis allé deux fois dans des petits séjours à chaque fois, mais étant donné qu'on avait un peu une sorte de culture commune, en fait, de par l'histoire commune du football en Europe, en fait, ça crée des liens. Et donc, même si au final, je les ai vus assez peu de temps, il y a une sorte de confiance qui s'est créée parce qu'on partageait bizarrement une culture commune. Et donc, je pense que ça les a aussi, quelque part, rassurés de savoir qu'en fait, ils ne parlaient pas dans le vide et qu'il y avait une oreille qui les entendait, quoi. Et après, je pense qu'ils avaient très très envie aussi de partager leur histoire, parce que pendant longtemps en fait ils ont été stigmatisés par rapport à la catastrophe de Hillsborough, et donc la version officielle diffusée par les médias, c'était que les supporters de Liverpool eux-mêmes avaient provoqué du coup la catastrophe, et surtout avaient commis des actes dégradants sur des personnes qui étaient décédées. Donc c'est une histoire qui a été relayée par le tabloïd The Sun notamment, et donc c'est quelque chose qui est resté très ancré en fait dans la culture à Liverpool, et il y a une sorte de haine vis-à-vis de ce journal-là et vis-à-vis de la version officielle, et du coup il y a une envie de dire leur version des faits. Et donc c'était je pense qu'ils avaient juste envie de partager cette version des faits par un peu tous les moyens, et la vidéo This Means More c'était un moyen parmi d'autres.
Well, to me it's the place where them people meet. It's where you go to support Liverpool Football Club. It's a subgroup of, of the community.
This Means More, c'est un slogan publicitaire du club, et donc je trouvais intéressant ce slogan-là parce que il témoigne de l'ambiguïté qui moi m'intéresse dans le stade, dans le stade de foot en particulier, mais je pense que c'est dans des stades et dans des espaces de sport en général. Entre d'un côté une forme de culture populaire et une forme de spontanéité de la foule qui s'exprime dans le stade comme un espace public, et en même temps ce stade-là c'est un outil de contrôle pour la foule, c'est une propriété de promoteurs immobiliers, de clubs et de fonds d'investissement. Et donc il y a une tension entre la spontanéité des supporters et l'histoire vernaculaire en fait des supporters, et la réappropriation de cette histoire et de cette énergie par les clubs et par les propriétaires. Et donc c'est l'enjeu du film, et cet enjeu là en fait il est synthétisé dans ce slogan qu'on voit à la fin du film. l'enjeu en modélisant l'espace et en montrant plutôt la modélisation 3D de l'espace que ben, les images d'archives de la catastrophe de Hillsborough, en l'occurrence. Pour moi, c'était assez... C'était, comment dire, c'était vraiment mettre au premier plan aussi cette espèce de d'arrière-plan qui est en même temps la condition de déplacement de la foule, qui est l'architecture de la tribune. Et du coup, c'est quelque chose qui est en général, comment dire, un peu justement masqué par les gens qui sont dans les tribunes, etc. Et le fait de ne pas montrer les corps, déjà il y avait une marque de respect vis-à-vis des supporters qui ont perdu la vie à Hillsborough et dont on n'arrête pas de montrer les mêmes images et de ad nauseam de remontrer la catastrophe. Et du coup, je pense que, enfin, moi je voulais pas participer à justement cette espèce de répétition d'une image catastrophique, parce que je voulais montrer une autre image aussi des supporters. Donc il y avait déjà une marque de respect, et en même temps, en ne montrant pas la foule au moment de la catastrophe de Hillsborough, ça permettait de faire ressortir l'architecture de la tribune. Et en l'occurrence, les cages qui entouraient la tribune et qui ont justement empêché les supporters d'envahir le terrain au moment où la tribune était surchargée, il y avait trop de monde. C'est vraiment ces grilles-là qui ont provoqué la catastrophe. Il y avait d'autres facteurs, mais qui ont favorisé la catastrophe. Et donc, en ne montrant pas la foule, en montrant que l'espace architectural, je voulais justement juste les montrer, en fait. Parce que je trouve que c'est très impressionnant quand on voit ces grillages, cette architecture. En fait, on se rend compte de choses juste par le fait qu'on la regarde. Alors qu'en général, elle est présente, elle est là, elle est sous-jacente, elle détermine les mouvements de la foule, mais elle est masquée par la foule, et donc on la regarde pas vraiment, en fait. Et donc, en retirant les corps, c'était une manière de montrer un peu la structure sous-jacente de la tribune qui a, on va dire, sinon provoqué, au moins favorisé la catastrophe. C'était un point important, parce que c'est aussi... C'est très important, du coup, de diffuser cette version-là, parce que elle a été occultée pendant très très longtemps. Mais je voulais pas justement que le film se réduise à l'affirmation de juste une vérité par rapport à l'événement. Et donc je voulais que ce soit plus large par rapport à la culture des supporters et l'histoire des supporters de Liverpool. Et donc, en fin de compte, les choses que j'ai apprises, elle concernait pas tant le déroulé de la catastrophe, mais ce que j'ai appris, c'était plus sur l'expérience des supporters dans la tribune à l'époque où c'était une tribune debout, en fait. Et donc les choses que j'ai vraiment apprises, c'est tous ces moments où ils m'ont décrit un peu leur perception de la foule quand ils étaient entourés comme ça d'une sorte de masse qui les dépassait et qui les charriait comme des vagues, en fait. Il y a la métaphore des vagues, elle revenait tout le temps. À la fois, ces vagues-là, du coup, ils apprenaient à les dompter. C'est comme un surfeur, un peu. Enfin, c'est assez étrange. Ils me parlaient presque comme des surfeurs, en fait, d'une tribune de foot. Donc ça m'a beaucoup surpris, ça. Et là, j'ai appris des choses, ouais, vis-à-vis de ça. Et vis-à-vis, donc, du coup, plus de l'expérience incarnée des supporters. Donc un des enjeux aussi du film, c'était de rendre un peu étranger, inquiétant et presque surprenant l'arrivée d'un siège en plastique dans un stade, dans une tribune, qui est un objet hyper banal et complètement anodin, en fait. Et donc, justement raconter toute cette histoire et montrer des tribunes vides, etc., l'arrivée du siège, tout d'un coup, ça devient un élément hyper important, parce que la tribune, elle est presque épurée, en fait. Et donc, tout d'un coup, ça devient comme un... sorte d'envahissement, en fait, ce siège-là. Alors que c'est un objet complètement banal, et aujourd'hui on se pose pas de questions quand on arrive dans un stade et qu'il y a des sièges partout, en fait. Les projets que je développe actuellement, ils sont en lien, mais ils sont moins directement sur l'architecture que sur la fabrication des images, on va dire. Qui était une dimension importante dans This Means More, où en fait c'est aussi bien l'architecture du stade que la fabrication d'une image de foule. Et donc, les projets que je développe actuellement, ils gardent cette dimension un peu d'enquête et de recherche documentaire poussée, mais ils la dirigent plutôt vers des questions d'image, de comment est-ce qu'on fabrique une image et de politique de la représentation et de choses plus spécifiquement liées à l'image et peut-être moins directement ou moins explicitement à l'architecture.